Alors Christophe, aujourd'hui c'est un moment un peu spécial. On a un invité un peu particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ou deux?
Alors, du sais-je voir ma légendaire modestie en prendre un coup. Je partage de nombreux points avec notre invité, puisque effectivement tous deux nous présentons un large front droit et là et clair, signe d'une indéniable supériorité intellectuelle sur les masses bellâtres de chevelus primaires. Nous arborons un superbe ornement pileux au menton d'une rare élégance qu'on n'a plus vue depuis le duc de Guise. Et tous deux, nous aimons beaucoup les jeux de Bruno Catala. Enfin, en tout cas, je l'espère de son côté, puisqu'il s'agit de Bruno Catala.
Incroyable.
Étonnant.
Bonjour, comment vas-tu?
Super bien, ouais.
Pas trop claqué après un week-end bien chargé?
Bah forcément un peu, parce que c'est vrai qu'à dormir 3 ou 4 heures par nuit, pendant 4 nuits consécutives, on n'a plus 20 ans non plus, quoi.
Mais... Oh là, oh là, Christophe, il se vante de pouvoir tenir et coucher tout le monde dans la ligue, et je crois qu'il y arrive.
C'est à peu près ça. Ouais, non, mais enfin voilà, donc du coup, c'est un salon comme ça, c'est toujours assez épuisant. Et ce qui est étonnant, c'est que ça me prend beaucoup d'énergie, mais en même temps, ça m'en donne aussi beaucoup, parce que tous les retours qu'on a, les gens qui viennent vers toi pour, pour partager un moment ludique, pour te dire qu'ils aiment bien ce que tu fais, enfin, bah forcément, ça te porte, parce que tu travailles toute l'année tout seul chez toi, et puis là, d'un seul coup, tu es confronté aux gens qui sont de l'autre côté, en fait.
Et c'est plutôt agréable.
C'est très agréable.
Alors, normalement, quand on a une personne, on reçoit une personne invitée, on essaie de faire un petit parcours sur la personne. On va éviter de faire ça avec toi. Non pas que, mais bon, on ne voudrait pas partir sur 2h30 d'émission. Pour le coup, on voulait faire un petit rapprochement sur tout ce qui peut être collaboration avec les auteurs, parce que tu en fais quand même pas mal.
À peu près 2 sur 3.
Voilà, c'est quand même un bon chiffre, sachant la prolifération de jeux que tu as à l'année. Comment ça se passe en fait pour les collaborations, comment on s'y prend pour collaborer avec un auteur? Alors ça a différents niveaux, un auteur qui est jeune, qui a peut-être son deuxième ou troisième jeu, un auteur qui a de la bouteille,
voire même son premier jeu.
Comment on peut avoir une approche avec un autre auteur finalement?
Déjà, j'aime ça, j'aime travailler en collaboration parce que ça m'oblige, ça me secoue la tête. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé dans le jeu de société en étant déjà relativement âgé, puisque mon premier jeu est sorti en 2002. J'ai commencé à travailler dessus fin 99, j'avais déjà 36 ans. Donc, en fait, j'avais eu le temps de réfléchir à la création de façon générale avant même ça. Il est assez communément admis qu'un auteur littéraire, un romancier, écrit plus ou moins le même roman toute sa vie. C'est-à-dire que les thématiques qui sont derrière, les préoccupations qui sont derrière sont assez récurrentes. Et j'étais persuadé, avant même de commencer à faire mon premier jeu, que quelque part, c'était un peu pareil pour un auteur de jeu. C'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, ton cerveau, il revient dans sa zone de confort. Je pense que tu y peux pas grand-chose. Et moi, ma volonté, c'était pas de faire un jeu, c'était de faire des jeux, c'était de devenir auteur. Et donc, j'ai eu cette volonté tout de suite de pouvoir alterner création solo et création en partenariat avec d'autres auteurs, ne serait-ce que pour aller explorer des zones sur lesquelles je ne me serais jamais aventuré tout seul, parce que ça ne me serait jamais venu à l'idée. Donc ça, c'est ça. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse encore particulièrement, c'est que j'avance en âge, forcément. Le joueur de jeux de société, il est dans une tranche 25-45 ans, globalement. Après, les gens continuent à jouer, mais certains arrêtent. Il y a des nouveaux entrants, etc. Mais la tranche moyenne, elle est toujours 25-45. Et je ne sais travailler que sur des jeux que j'ai envie de jouer moi-même. Ça, c'est mon credo. Je fais les jeux pour moi, au premier degré. Et mon questionnement, c'est de me dire à partir de quel moment mes propres envies vont se retrouver en décalage par rapport au cœur de cible. Et ce qui est agréable aujourd'hui, c'est que j'ai des jeunes auteurs qui viennent vers moi. Et du coup, ça me permet de travailler avec des gens d'une autre génération et nécessairement, là aussi, d'aller aborder des thématiques qui m'auraient été peut-être étrangères sans ça. Après, je fais une réponse longue. Hein. Pour répondre à la question, après, le départ, comment ça se passe, c'est très variable. Ça peut naître d'une discussion commune. Simplement, on n'a même pas décidé de travailler ensemble, mais bon, on se connaît, on se rencontre, on échange. Peu importe que la personne soit expérimentée ou pas.
L'envie de travailler ensemble ?
Oui.
Sans avoir le moindre idée.
Exactement. Oui, ça c'est une possibilité. Tu rencontres quelqu'un sur un salon, comme ici, au détour du off, par exemple. Tu as un auteur qui est là. Et puis tu échanges, tu commences à échanger sur différentes choses. Et puis d'un seul coup, il y a une envie commune qui naît. Et donc, du coup, on se dit, tiens, ça serait cool qu'on bosse ensemble. Et puis après, on va développer ça ensemble. Après, t'as l'un des deux qui lui-même a vraiment une idée et qui se dit quel serait mon meilleur partenaire pour faire ça. Et donc, j'ai des gens qui viennent me chercher pour ça, de la même façon que, parfois, moi, je vais chercher quelqu'un qui me semble être le partenaire qui va bien pour ça. Voilà.
Mais parce qu'il y a une idée à la base.
Parce qu'il y a une idée à la base,
ouais. D'accord.
Et que tu sens qu'il y a un petit truc qui manque, ou que la personne, l'autre auteur sait que, grosso modo, il n'est pas assez, quoi. C'est une sorte d'insatisfaction et qu'on sait que quelqu'un est capable de détecter où est le...
Moi, je pense que c'est surtout que, oui, il peut y avoir quelque chose qui manque, mais c'est généralement pas ça. On va pas te demander de rajouter la pierre manquante. Moi, je pense que c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que, pour moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais créer, c'est douter. Et douter à deux, c'est beaucoup plus confortable que de douter tout seul. C'est-à-dire qu'en permanence, quand tu es en train d'avancer dans ta création, tu fais des choix et tu sais que tu pourrais aller là, ou là, ou là. Et finalement, chacune de ces directions est intéressante et il faut faire des choix. Il faut décider où on va et en discuter avec quelqu'un, avoir un partenaire pour décider ensemble qu'on va à tel endroit. Bah finalement, c'est assez réconfortant et ça te permet de pas être tout seul face à la page, quoi.
C'est surtout pouvoir discuter des décisions.
Exactement.
Quelque chose. Yariamelo ?
Avec combien d'auteurs différents tu as travaillé et est-ce que tu as des auteurs avec qui tu as travaillé beaucoup plus que d'autres ?
Oui, alors bah, combien d'auteurs différents ? J'ai pas fait le compte, mais en tout cas au moins une dizaine, je pense.
Et puis, ils ont fait un syndicat.
oui, c'est vrai.
C'est Mathieu.
Mais avec qui avait créé le syndicat des co-auteurs de Bruno Catala. mais bon, j'ai maté La Rébellion. Ah. Non, et après, oui, il y en a avec qui j'ai travaillé beaucoup plus que d'autres. Ludovic Maublanc, je pense que c'est celui avec lequel j'ai fait le plus de jeux. J'en ai fait quelques-uns avec Antoine. Avec Bruno Fedouti, j'ai dû en faire 5, je pense.
Charles
Chevalier, maintenant, on en est à notre 3e. Et puis voilà, après, il y a des collaborations qui s'inscrivent dans la durée, tout simplement parce que c'est des questions d'affinité. Moi, je ne suis pas en train de travailler avec un co-auteur, je suis en train de partager quelque chose avec un copain.
Bien sûr.
Donc
oui, il y a une relation qui, en plus, oui, ça crée une relation d'amitié, donc forcément une côté.
Quand on me demande moi, qu'est-ce qu'il faut pour que tu travailles avec moi, parce que ça m'arrive assez régulièrement d'être sollicité, moi je dis c'est simple. Il faut que j'ai un coup de cœur pour le projet, il faut que j'ai un coup de cœur pour la personne, parce que sinon ça ne sert à rien, et il faut que j'ai le temps disponible.
Oui, ça c'est le plus difficile. Rémélo,
est-ce arrivé que ça soit mal passé?
Oui, est-ce qu'il y a eu des frictions avec...
Alors, tu ne veux pas travailler, même si tu ne me dis pas non, mais tu ne veux plus travailler
Mal passé, non. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la relation, même si moi je reste la même personne, la collaboration, la façon dont je travaille avec chacun d'entre eux, est différente. C'est-à-dire que chaque couple, finalement, va trouver... Non, mais c'est presque c'est vraiment des relations de couple, d'une certaine façon. Et chaque relation est différente. La façon dont je travaille avec Bruno Fedouti est très, très différente de celle avec Antoine Boza ou est très, très différente de celle avec Ludovic Maublanc. Et après, il peut parfois y avoir des confrontations d'égo, mais ça se passe pas mal. Travailler à deux, ça va, parce que même quand on a un désaccord... Enfin, c'est pas qu'on a un désaccord, c'est qu'on n'a pas forcément envie d'aller au même endroit par rapport à une problématique 2D. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, elles sont simplement différentes. Quand t'es que deux, ça te laisse le temps à l'un des deux de dire ok, je vais de ton côté. Dans la mesure où ces arbitrages-là, dans le temps, ne sont pas toujours du même côté, ça ne pose aucun souci.
Et que ça ne révolutionne pas totalement le concept.
De toute façon, moi, c'est hors des questions que je fasse un jeu qui ne me correspond pas. Donc, voilà.
Non, on revient à ça, en fait.
Et par contre, si on était 3, ça serait beaucoup. Enfin, ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'à 3, tu finis tout de suite par du 2 contre 1. C'est-à-dire qu'immédiatement, quand on veut aller à droite ou à gauche, il y en a deux qui disent gauche.
Et
le troisième, il n'a pas le temps d'avoir le temps lui-même de faire le deuil de cette direction.
D'être convaincu.
Exactement.
Christophe ?
Alors, justement, par rapport aux co-réalisations, le rapport n'est pas toujours le même. Il y a une griffe de Bruno Catala. Parfois, on reconnaît un jeu de Bruno Catala, non pas parce qu'il se ressemble, mais parce qu'il y a des éléments, on va dire, un petit peu essentiels. Hein. Le côté chafouin est quand même assez récurrent, on peut le dire.
Oui. Taquin, vraiment taquin.
Oui, le côté taquin. Voilà, taquin. Totalement voilà. Taquin. Et c'est vrai que, du coup, il y a certains jeux, on se dit, c'est un vrai travail commun. En tout cas, on reconnaît la griffe de Bruno Catala. D'autres, on a l'impression, c'est peut-être plus un accompagnement final, ou est-ce que c'est toujours vraiment un jeu à deux?
Non, c'est toujours vraiment un jeu à deux, en fait. Il y a pas, enfin pour moi en tout cas c'est comme ça que je le vis. Mmh. Après la façon dont les gens le perçoivent de l'extérieur, c'est intéressant pour moi justement. Mais non, à chaque fois c'est un vrai travail à deux. Ouais.
Mais est-ce qu'il est déjà arrivé que tu, enfin et oui, on le sait tous, mais voilà, un auteur vient, il a un concept de jeu qui est quasi fini à peut-être 60-70%, et il te demande finalement une finalité, peut-être ton avis un peu plus éclairé sur un truc, pouvoir développer, et il a peut-être pas la finalité du jeu, il a peut-être un truc oui, qui manque, c'est... une mécanique, et il te demande de venir derrière, et vous travaillez ensemble sur la fin de la mécanique, et tu arrives avec peut-être cette petite griffe qui est en plus.
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que y a des gens qui viennent vers moi avec des idées qui sont déjà éventuellement avancées, voire même très avancé. Ouais. Dans ces cas-là, si je donne un conseil, si je fais un accompagnement, etc., je ne demande pas à avoir mon nom sur la boîte.
D'accord. Donc ça reste...
D'ailleurs, je ne demande jamais à avoir mon nom sur la boîte. On peut prendre un exemple concret qui est celui d'Imaginarium qui sort sur le salon. Avec Florian, on se rencontre à Cannes. Maintenant, je ne compte plus le nombre d'années parce que je ne sais plus tout à fait. Et puis, il voulait des conseils au début sur comment est-ce qu'on crée un jeu, etc. Donc, on a eu une conversation. L'année d'après, il revient avec des prototypes qu'il a montés par rapport à la discussion qu'on a eue. Il me les montre, je les joue à la maison. C'est très bien construit. Il y a manifestement, le garçon est doué. Enfin, en tout cas, il sait s'y prendre comme il faut et tout ça. Mais les jeux ne sont pas vraiment... enfin, en tout cas, ils fonctionnent très bien, mais... ça me paraît difficile de les amener à l'édition, par rapport au marché qui devient de plus en plus sélectif, etc., etc. Et puis plusieurs mois plus tard, il m'envoie une règle d'un projet qui s'appelait Steamers à cette époque-là.
On avait testé ça à l'époque.
Et quand je lis la règle, en fait, c'est en vrac, mais par contre, enfin, il y en a dans tous les sens, mais par contre, il y a un élément à l'intérieur qui fait tilt. Et là, je me dis, ah ouais, là, il a quelque chose, ça, c'est bien.
C'était quoi cet élément, tu te souviens ou
Oui, c'était le fait de. C'est un jeu de gestion de ressources, Steamers, en fait, très très classique, puisque tu produis des ressources, tu peux les acheter pour faire des trucs et des machins. Ça, on a déjà vu 40 000 fois. Le truc élégant, malin qui est à l'intérieur, c'est qu'en fait, tu peux aussi obtenir tes ressources en démontant des machines. Donc, tu prends des machines cassées, tu peux les monter, les démonter pour récupérer d'autres sources. Donc, tu fais du bricolage, en fait.
D'accord.
Et ça, c'est pas tout à fait pareil. Et donc, du coup, ça me semble intéressant. Par contre, à ce moment-là, le jeu tel qu'il est, il y a la géniale idée, mais en l'état, ça
manque d'enrobage.
Ça marche. Ouais. Je suis sûr que ça marche, mais par contre ça va pas parce que c'est trop le bordel dans tous les coins, les phases sont, enfin bref, donc là je lui fais un retour construit avec, en disant, je lui donne des conseils, et puis il fait des évolutions, il revient vers moi avec une nouvelle règle que je relis, je lui refais des conseils une deuxième fois, une troisième fois, puis la troisième fois il me dit, mais à partir de quel moment c'est un jeu qu'on fait ensemble? Bah je lui dis, mais écoute, Florian, moi, je ne suis pas en train d'essayer de préempter ton jeu. Je veux dire, tu es en train de faire ton jeu, ta création, etc. Moi, je peux t'accompagner comme ça jusqu'au bout si tu en as envie. Par contre, si toi, tu me dis, ah ben, bah, mon jeu, il a tellement changé que je pense que c'est une co-création et que tu me demandes de t'accompagner, alors je vais m'impliquer autrement. Mais par contre, ça sera ton choix, ça sera ton questionnement, c'est pas le mien. Moi, je ne cherche pas à récupérer un jeu de plus. De toute façon, je n'en ai pas besoin. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pour mon ego, ça va bien. Hein. J'ai assez à côté. Et là, il me dit, ah non, mais alors, ouais, j'aimerais vraiment qu'on le fasse ensemble. Voilà. Et donc, à partir de là, j'ai plongé dans le truc, j'ai pris les fichiers, j'ai tout rationalisé les trucs, etc., etc. Voilà. C'est à partir de là qu'on a travaillé ensemble.
Là, il y a eu un vrai travail de co-auteur.
Exactement.
Dessus. D'accord. Et Ramelo,
ton travail de consulting, c'est un travail que tu fais rémunérer, c'est une activité professionnelle dans ces cas-là. Enfin, là, ça ne débouche pas à un co-auteur, mais juste un consulting?
Non, absolument pas, c'est pas rémunéré du tout. Jamais je vais faire payer un auteur qui m'envoie une règle sur laquelle je vais faire un retour. Ça me semble...
Ça pourrait être le cas, hein. Genre, c'est pas forcément...
Ça pourrait être le cas, c'est pas ma philosophie.
D'accord, ok. Donc ça reste vraiment que du...
Exactement. Après, ça peut m'arriver de faire du consulting, effectivement, mais ça, par contre, c'est un éditeur qui va m'approcher pour du consulting. D'accord. Et dans ce cas-là, oui, c'est rémunéré. Mais l'auteur qui m'envoie une règle sur laquelle je fais des commentaires, etc., même si généralement, ça me prend, allez, en moyenne, un premier commentaire, ça va me prendre une heure.
D'accord.
De mon temps. Je le fais assez très, très régulièrement. Mais non, bien évidemment que non.
Ça reste du entrepote, en fait.
Oui, et dans la plupart des cas, c'est des gens que je connais pas. Hein. Oui. C'est
J'ai entrepote, entre guillemets, dans le sens, voilà, on s'entraide, on est entre collègues, on est tous dans le milieu.
On fait partie de la même famille, on est avant tout tous des... Enfin, je veux dire, autour de la table ici, on est tous des passionnés de jeux de société.
Absolument.
Et donc, pour moi, il n'y a pas l'auteur... parvenu, entre guillemets, l'auteur débutant, le joueur,
ouais, etc. Il n'y a pas de piédestal sur lequel on met quelqu'un.
J'en veux surtout pas. Ouais, alors, je veux dire, il faut que ça reste simple et qu'on partage cette passion commune et puis qu'on tente tous ensemble de faire en sorte que d'autres personnes nous suivent, en fait, finalement.
C'est incroyable. On retrouve un peu, enfin, la comparaison est amusante. On retrouve un peu le discours de Charles Chevalier qu'on avait interviewé il y a un petit moment. Effectivement, qui avait ce côté, voilà, on est tous entre passionnés ici. Il n'y a aucun problème. Et finalement, ça reste très, très.
C'est peut-être pour ça qu'on bosse ensemble.
C'est pour ça que c'est normal, quoi. Ouais. Christophe.
Alors, donc là, on parlait des jeux coproduits, enfin, co-réalisés, co-auteurs. Je ne sais pas très bien comment on peut
co-auteur,
dire. Co-auteurs. Et après, il y a les jeux solo. On a l'impression que ça tourne toujours déjà dans ta tête, parce que déjà, bon, là, moi hier soir, j'ai pu tester un des deux prototypes le plus léger, mais qui est bien chafouin, il a l'air simple, mais bon. Mais, et tu dis, voilà, il a que 10 jours, il est encore hyper perfectible, etc., il y a encore des trucs à régler. Enfin, je pense que déjà, pour le montrer,
si
tu le montres, c'est que là, tu es sur des réglages.
Exactement.
Mais en 10 jours, t'as quand même réussi à avoir quelque chose. Enfin, c'est une mécanique qui fonctionne toujours, là, j'ai l'impression. Enfin, oui. T'es toujours un cerveau qui fonctionne toujours sur la recherche de jeu.
Non, mais en fait, je suis jamais en train de chercher. Je veux dire, les idées, elles naissent à des moments inattendus. Elles naissent à des moments où je fais quelque chose qui n'a rien à voir avec le jeu de société. L'idée initiale, l'étincelle, le mécanisme, l'envie, elle naît, on ne sait pas pourquoi. Jamais je m'assieds à mon bureau en me disant, tiens, aujourd'hui, je vais réfléchir à faire, un jeu.
C'est pas l'auteur
ça
de...
Ça ne marche pas, ça. Enfin, pour moi, ça ne marche pas. Mais l'idée, elle va naître... Enfin, ça paraît un peu étrange de dire ça, mais elle va naître à un moment donné où je suis en train de prendre une douche, par exemple. Non, mais c'est la réalité. Hein.
Alors, l'anecdote est absolument géniale, et je suis désolé, mais c'est qu'on avait discuté avec Charles Chevalier, on discutait, je sais plus, je crois que c'était de la sortie d'Abyss ou quelque chose du genre, et il disait, quand on était bloqué avec Bruno, très souvent, on s'appelait, on était bloqué sur un point de règle, et il me rappelait juste après, il me dit, je sors d'une douche et je viens d'avoir une idée. Et je trouvais ça fantastique. Quand lui, il est bloqué, il prend des douches. Et voilà, c'est confirmé.
En fait, je vais pas prendre une douche parce que j'ai besoin d'avoir une idée. Hein. Je suis simplement un garçon propre. C'est tout. Mais voilà, mais je vais faire du vélo, par exemple, et à un moment, enfin, j'habite dans les montagnes, je ne suis pas un poids-plume, hein, et chez nous, c'est dur. Et donc, je pense qu'à un moment donné, quand ton corps, il est en souffrance, ton esprit, il a besoin de s'évader et de s'échapper et de penser à autre chose. Et c'est naturel, ça se passe comme ça, et clac, ça zappe là-dessus. Et puis, d'un seul coup, tu dis, ah, ça, c'est bien. Et puis, en train de conduire, en fait, dans des moments qui sont pas dédiés aux jeux de société. Après, quand je suis à mon bureau, c'est différent. Là, je fais du développement. C'est que l'idée est là, et là, je travaille sur quelque chose qu'il va falloir. Et là, c'est réellement du travail. Mais l'idée, elle naît n'importe où.
Surtout que tu as conceptualisé aussi. Les articles que tu as écrits sur ton blog, etc.
Oui.
Tu conceptualises quand même.
Mais ça vient de mon ancien métier, ça. C'est-à-dire qu'à la base, moi, j'ai une formation scientifique. En fait, j'ai eu une enfance avec une envie artistique contrariée. Du fait que moi je voulais être auteur de bande dessinée, hein, clairement, j'ai encore mes strips à la maison, enfin, etc. Et malheureusement ou heureusement pour moi, maths physique, ça marchait facilement à l'école. Donc, du coup, en fait, on est dans un système éducatif en France où tu veux faire boulanger, il faut faire maths physique, tu veux faire avocat, il faut faire maths physique.
Passe ton bac d'abord.
Ouais, puis si c'est un bac C, c'est mieux, quoi, quand même. Enfin, voilà.
Donc j'ai maintenant, mais
ouais. Oui, bah bien sûr, mais je suis vieux et j'étais même en seconde C, messieurs. Il y avait même pas de seconde indifférenciée à l'époque.
Incroyable.
Ouais, c'est juste la dernière année. Et bref, et donc du coup je me suis retrouvé à finir ingénieur en sciences des matériaux. Et puis je pense que c'est pas totalement, enfin c'est un hasard sans être un hasard. J'ai été embauché pour faire de la recherche et du développement. Et donc le côté créatif était là quand même, voilà. Et en fait, dans mon métier, pour mener les expériences nécessaires, le matériau de base était excessivement cher. Et donc à un moment donné, moi, jeune ingénieur, je devais démontrer à mon chef de service que les plans d'expérience que je voulais mener étaient utiles.
Ouais, logique.
Et donc j'allais défendre ma méthodologie. Et il me disait, mais Catala, pourquoi vous voulez faire un point, ce point-là à tel endroit? Bah parce que mon champ de réponse, etc., etc. Et il me dit, mais Catala, les lois de la physique, c'est les lois de la physique, on est d'accord. Oui, bien sûr. Est-ce que vous n'êtes pas capable de projeter normalement les valeurs que vous devriez trouver? Oui, je sais, je devrais être à peu près à 1500 MPa, machin truc. Il me dit, donc vous le savez. Donc, si vous le savez, on va quand même pas payer pour quelque chose qu'on sait. Oui, mais on n'est pas totalement sûr, on l'a jamais fait, etc. D'accord, mais les courbes de réponse, les lois de la physique. Donc, vous êtes capable de le projeter. Donc, tout ce que vous êtes capable de projeter, on va certainement pas payer pour le faire. Et donc, en fin de compte, quelque part, jeune ingénieur, j'ai été confronté à ça. Et donc, du coup, mon cerveau, c'est adapté à cette façon de procéder. Et après, quand j'ai commencé à créer mes jeux, j'ai fonctionné exactement de la même façon. Parce que, aussi, je suis une grosse feignasse. C'est-à-dire que...
C'est pas hyper voyant au niveau de la production. Hein.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'aime pas faire et défaire.
Ouais.
C'est par exemple, j'ai une idée, je vais pas commencer à faire une tonne de matériel pour voir comment ça se passe. Non, je vais commencer à tenter de projeter mentalement le plus loin possible des situations de partie. Alors, j'ai pas la prétention de dire que quand on a fait Cyclades, je jouais à Cyclades à 5 tout seul dans ma tête pendant 2 heures. Non, mais par contre, je suis capable d'imaginer vraiment des situations de partie. Et tant que j'arrive à imaginer des situations qui sont soit pénibles, soit qui conduisent à des bugs, ou un joueur pourrait se comporter de telle façon qu'il va faire foirer le truc, eh ben je préfère imaginer comment on pourrait faire autrement. D'accord. Et à partir du moment où ça me semble suffisamment clair, et pour des petits jeux, tu peux même aller jusqu'au bout, hein, celui que tu as joué hier soir, c'était quasiment le cas, je fais pas de matériel. Et souvent, quand je fabrique mon prototype, que je fais mon premier prototype, c'est il marche. Alors après, il n'est pas terminé, mais en tout cas, il marche.
D'accord.
Et voilà, et en fait mon esprit a été formaté de cette façon-là par rapport à 18 ans d'expérience dans un domaine. En fait, ma méthodologie de travail est exactement la même, le champ d'application est différent.
D'accord.
Après, certainement que je passe à côté de petits miracles qui sont, et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de travailler avec d'autres auteurs, qui sont, par exemple, comme quelqu'un comme Ludovic Maublanc, lui, dès qu'il a une idée, la première chose qu'il faut qu'il fasse, c'est une tonne de matériel. Et après, c'est en manipulant ce matériel, et voire même en le fabriquant, que ça lui donne d'autres idées, etc., etc. Et moi, ça, eh ben, ce petit miracle-là à moi, il ne m'arrive pas forcément. Et donc, du coup, là aussi, c'est précieux de ne pas rester dans son mode de fonctionnement. Sinon, à nouveau, on va refaire tous toujours le même jeu, plus ou moins.
Effectivement. Ariamelo, tu avais une question.
Oui, c'est actuellement, ton temps professionnel n'est exclusivement pour le jeu, ou tu fais d'autres activités professionnelles à côté?
Alors, je travaille... pour déclarer mes droits d'auteur, etc., j'étais amené à monter une URL, donc je suis en entreprise. Et si aujourd'hui j'ai la chance qu'au niveau des royalties, ça se passe bien, ça fait 3 ans que je vis très très correctement, mais avant ça a été galère. Et donc en fait, ma société, elle est constituée depuis le départ pour pouvoir offrir tout un ensemble de prestations qui sont toutes liées aux jeux de société. Je peux faire de l'animation, je peux faire de la création sur cahier des charges à des fins de marketing, de support de formation, etc. Enfin voilà, tout un an, je peux faire du conseil, je peux faire voilà, le conseil, je vis du jeu de société
dans le sens large du terme.
Au sens large du terme depuis 2004.
D'accord. Voilà. Ce qui est une chance en France par rapport à beaucoup d'auteurs.
Ah c'est même enfin je suis reconnaissant tous les jours de pouvoir mener cette vie là, hein, clairement. Hein.
Mais finalement ça reste parce que il y a aussi une notion de travail, d'acharnement là-dedans.
Ouais, je suis un peu acharné. Oui, ça c'est pas ça. C'est quand je crois à un projet, c'est sûr que je vais pas le laisser de côté. Ça c'est certain. Je vais y revenir jusqu'à temps. Parce que si j'ai travaillé sur ce projet, c'est parce qu'il me tient à cœur, parce que j'ai envie d'y jouer moi. Donc.
Ça t'est jamais arrivé de lâcher un projet, même enfin, alors peut-être un an ou deux, et puis d'y revenir?
Bien sûr que oui.
D'accord, mais tout complètement. T'as pas un ancien projet dans les cartons qui daterait de 3 ans, 4 ans, en disant « Ok, celui-ci, je le mènerai peut-être à terme dans 10 ans, mais pour l'instant... »
Peut-être jamais, mais moi, ouais. Dans mon parcours, depuis 15 ans maintenant, j'ai réussi à publier... J'ai une centaine de publications, à peu près, si on compte les extensions, hein, qui pour moi, je les compte comme ça, parce que ça nécessite autant de travail.
Ouais, ça reste quelque chose. Hein.
Donc, c'est une centaine de publications, et je dois avoir 4 ou 5 projets dans les cartons sur lesquels je n'ai pas réussi à trouver la publication.
C'est pas mal, 5% c'est peu, hein, ouais. Finalement.
Mais après, à l'intérieur, il y a des choses que je vais certainement réutiliser plus tard.
Christophe.
Et justement, en 15 ans, les mécaniques ont changé aussi, hein, elles ont évolué. Bon, tu as fait partie de ceux qui ont fait évoluer, mais pas seul. Et du coup, je pense que tu as certainement été aussi influencé par les créations des autres. Et du coup, est-ce que tu revois les jeux que tu as fait il y a 15 ans avec le même œil qu'à l'époque, où justement, quelque part, tu dis celui-là, je voudrais bien le revisiter, le revoir, etc.
Mais c'est ce que je fais. C'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire que, par exemple, là, sur le salon, il y avait un jeu qui était présenté qui s'appelle Jurassic Snack. Jurassic Snack, c'est l'évolution de Guerre et Baie, qui est sorti en 2002 et que j'ai retravaillé au travers de mon expérience. C'est-à-dire qu'à l'époque, Guerre et Baie, historiquement, c'est le deuxième jeu que j'ai créé. Et en fait, Guerre et Baie, à cette époque-là, a eu son petit succès. Franco-français, parce qu'à l'époque, la distribution internationale n'était pas la même, etc. Et puis, c'était fait avec un tout petit matériel, des tout petits jetons, etc., etc. Donc, ne serait-ce que déjà, en termes de matériel, les choses ont évolué. Aujourd'hui, on peut faire de la 3D, on peut... Voilà. Mmh. Donc, du coup, j'ai changé de thématique, déjà. Mis des petits dinosaures mignons, ce qui nous permet d'avoir des figurines fort sympathiques, figurines qu'on n'aurait jamais eues à ce prix-là il y a 15 ans en arrière. Et puis surtout, j'avais constaté à l'époque, pour avoir fait beaucoup d'animations sur des salons différents, que ce jeu avait un attrait très fort sur les familles. Il était à la fois très très simple et taquin, comme tu disais tout à l'heure. Et donc du coup, il y avait le joueur un peu tactique pouvait se faire un peu plaisir, mais en même temps, le gamin pouvait quand même le battre parce que voilà, ça reste un jeu familial sur lequel la part de hasard existe, elle est pas, enfin le joueur tacticien gagnera plus de parties, mais par contre, voilà, si ça se passe bien pour toi, tu peux t'en sortir. Et puis, en fait, simplement pour rentrer peut-être dans le détail, t'as des dinosaures, là, enfin à l'époque c'était des moutons qui mangent des jetons d'herbe, tu les retournes. Si c'est de l'herbe de base, tu fais tes points de base. Si t'as un gros avantage de l'herbe très très riche. C'est génial parce que tu marques plus de points, mais en même temps, ton mouton, il a besoin d'aller se reposer sur le bord du terrain, et si tu perds ton dernier mouton, t'as perdu.
D'accord.
Donc tu peux, voilà, et puis il y a un loup qui peut permettre d'aller expulser les moutons des autres. Et puis quand tu prends de l'herbe qui fait que un pauvre point, c'est de l'herbe qui fait bien rire, et donc du coup, ça te donne un super pouvoir pour plus tard. Et donc, à l'époque, ces super pouvoirs pour plus tard, c'était au travers, moi j'étais un joueur de Magic, etc., c'était au travers, c'était au travers de cartes à effet. De façon très naturelle. D'accord. Et en fait, en expliquant le jeu encore et encore sur les salons, je me suis rendu compte qu'avec mon cœur de cible, qui était plutôt des familles avec des enfants qui allaient jusqu'à 7, 8 ans, eh ben, c'était problématique. Parce que l'enfant, il pioche sa carte cachée, éventuellement, il n'est pas capable de lire le texte. Alors, une fois qu'il a fait une ou deux parties, il reconnaît le dessin, il sait exactement ce que ça fait. Mais pour les premières parties, c'est laborieux, parce que les informations sont cachées. Et ça, c'est justement l'expérience où je me suis dit, mais là, je ne peux plus faire ça aujourd'hui. Ça, c'est un frein au plaisir ludique, tout simplement. C'est frein à l'expérience ludique. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu manges ton jeton d'herbe, tu le retournes. De l'autre côté, tu as un nombre de feuilles. Je n'ai pas mis de nombre parce qu'on ne fait pas de maths. Mais par contre, tu as une, deux ou trois feuilles, c'était point de victoire. Mais par contre, esthétiquement, tu n'es pas en train de faire des maths. Et il y a un très joli dessin qui indique l'effet que tu appliques immédiatement. Et donc, du coup, tu joues avec un enfant. Tu n'as pas besoin de lui expliquer la règle. Tu lui expliques juste comment ça se déplace les dinosaures. Il bouffe son truc. Tu retournes et tu dis, ben voilà, tu peux faire ça. Alors, il le fait, etc. Et donc, on a gagné en immédiateté, en plaisir ludique, et voilà. Et donc, quand j'ai des jeux auxquels je tiens, et je me suis dit, ah, on est un peu passé à côté de la cible pour différentes raisons, etc., j'ai une vraie envie de tenter de redonner une seconde vie à ces jeux-là. Exemple, j'adorerais retravailler Sans Foi ni Loi.
Ah ouais. Qui avait déjà été travaillé sur le nom de Fils de Samarande.
Qui avait déjà été retravaillé sur le nom de Fils de Samarande, mais ça, c'était lié au rachat des cartes par Asmodée.
Oula, c'est un bon plan déjà.
Ouais. Et donc pour des histoires de droits d'image, parce que les droits de l'image de Symphonie Loi appartenaient, c'était assez compliqué. Quand ils ont souhaité poursuivre la vie de ce jeu-là, il fallait le rethématiser et le réillustrer.
D'accord.
Et ce qui était mon premier travail avec Mathieu Lessen, artiste que j'admire vraiment.
Ok. Christophe.
Alors tu as aussi une des caractéristiques de ta production, c'est les jeux à deux, parce qu'effectivement tu es un des porte-paroles. Quand on parle des jeux à deux, souvent on parle des jeux de Bruno Catala, parce que pour les jeux à deux, il y a beaucoup de tes jeux qui font partie des références en auteur simple ou en co-auteur. Et quelque part, le jeu à deux, moi j'adore ça, il y en a certains qui sont pour des toutes beautés, des petits bijoux, mais dans le milieu, on a l'impression que c'est toujours un peu le parent pauvre, hein, en termes de sélection, en termes de mise en avant, etc. Il n'y a pas une frustration un peu par rapport, en tant qu'auteur d'ailleurs, on prend la main du roi,
oui.
Où tu l'avais développé pour deux,
exactement.
Et on te demande de le développer pour quatre.
Exactement, si je ne l'avais pas étendu à quatre joueurs, il ne l'aurait pas publié. Mais pour moi, c'est un jeu à deux, hein, clairement. Oui. Ouais.
C'est délicat quand même de. Mais comment on réagit face à cette demande? Effectivement, on le fait parce qu'on a envie de sortir.
Alors, je vais déjà répondre à la première question, qui est celle de la frustration. Oui, j'ai été longtemps frustré de ce grand écart entre la réalité du terrain et le discours des éditeurs. Un discours que je comprends très bien, c'est-à-dire que en France, en tout cas, tu avais un éditeur, éminent, et qui a dit haut et fort une fois, et il a raison, que la problématique du jeu à deux, c'est que la diffusion d'un jeu, c'est une mécanique de diffusion virale. C'est-à-dire qu'il faut que, si tu veux qu'un jeu s'installe, et s'installe vite, il faut que les primo-acheteurs puissent faire jouer le jeu, et tu vas convaincre éventuellement, potentiellement, au travers de ce jeu, d'autres joueurs, partager, etc., etc. Et évidemment, si tu fais du party game qui se joue rapidement et à 15 autour de la table, eh ben le primo acheteur, il a la chance de convaincre peut-être un ou deux joueurs parmi 15, etc., bien etc. Sûr. Et donc du coup, c'est ça la voie. Et
ton, le problème, ton exposant, quoi.
Et le problème du jeu à deux, c'est qu'à chaque fois que le primo acheteur, il va faire jouer une seule autre personne. Et dans au moins la moitié des cas, c'est son compagnon.
Bien sûr.
Et donc du coup, ça veut dire que la chaîne, elle va s'arrêter tout de suite. Et donc du coup, les jeux à deux, faut pas les faire. Ou du moins, voilà.
Et
ça, si tu veux, ça a résonné très fort dans un nombre... Enfin, voilà, c'est devenu une vérité. Et puis moi, à cette époque-là, vivre avec mes royalties, c'était pas possible. Et donc, en parallèle, je faisais ces fameuses activités dont on parlait, dont être vendeur en boutique. Je faisais des prestations de vendeur en boutique un ou deux jours par semaine. Et moi, j'étais confronté, tous les jours, à des gens qui venaient en boutique et qui me disaient « Vous avez quoi pour deux joueurs ?»
Bien sûr.
Parce que les jeux à deux sont les plus faciles à jouer.
Bien sûr.
On a toujours un deuxième partenaire.
Quasiment,
c'est pas 3 ou 4. C'est pas que c'est tant facile à jouer, mais c'est surtout que voilà, quand on est en couple, quand on a envie de partager un moment de jeu avec son
partenaire. Et du coup, moi, en tant qu'auteur, ça fait partie des choses vers lesquelles j'ai une facilité. Et j'aime ça, parce que moi-même, en tant que joueur, j'aime jouer à deux, tout simplement. Parce que je viens des échecs, du go, de l'Othello. Enfin, voilà, moi, le jeu abstrait pour deux joueurs, c'est une passion. Enfin, je trouve ça me fascine mathématiquement, quelque part. Depuis très très longtemps, depuis même avant que j'imagine qu'un jour je ferai un jeu, quoi. Donc j'aime ça. Je suis en boutique. Il y a des gens qui me disent, je veux ça. Je présente mes jeux aux éditeurs, ils me disent, ouais, mais c'est deux joueurs, quoi. Donc du coup, cette frustration, elle a existé, mais aujourd'hui, c'est en train de basculer. Aujourd'hui, c'est en train de basculer parce qu'on voit des éditeurs qui commencent à monter des gammes de jeux à deux, vraiment, et on se dit qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et donc du coup, mon espoir, c'est que ça, on regarde que le monde de l'édition ait un regard un peu différent sur le jeu à deux. Alors je pense pas que ce soit Seven Wonders Duel qui ait changé ça, mais simplement, donnons des chiffres. Seven Wonders Duel, aujourd'hui, 400 000 boîtes. Hein.
Voilà.
Donc, on peut faire des succès avec des jeux à deux, même sans gagner de prix majeur.
Par rapport à Seven Wonders, c'est combien ? Seven
Wonders, je peux pas te répondre. Je suis pas l'auteur de Seven Wonders.
Mais justement, là, même si effectivement, c'est il y a Antoine Bozat qui est co-auteur avec toi là-dessus.
Bien sûr.
D'ailleurs, chaque fois, on l'a tous fait quand on l'a présenté Seven Wonders Duel. On a dit, que ce sont deux jeux totalement différents quand même.
Exactement.
Et même ça, les deux s'appellent Seven Wonders. Et c'est vrai que là, le succès de Duel ne vient pas du succès de Seven Wonders.
Alors, en fait, le fait que ça soit un jeu dans l'univers de Seven Wonders, qu'il offre une expérience ludique proche de Seven Wonders, mais spécifiquement adaptée pour deux joueurs, a attiré l'attention. Quand le jeu est sorti, nécessairement, toutes les caméras étaient braquées sur le jeu. C'est-à-dire, et en même temps, c'était génial parce que ça permettait de pas sortir inaperçu, ce qui est le cas malheureusement de trop de jeux aujourd'hui. Mais en même temps, c'était un risque majeur, parce que si jamais on avait déplu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, on allait se faire défoncer.
Bah, bien sûr.
Il y avait aussi un problème, peut-être, il fallait aussi démontrer que ce n'était pas un Seven Wonders pour deux. C'était, la version de Seven Wonders d'Antoine seul, ce n'était pas sa version deux joueurs, c'était autre chose, une autre mécanique, etc.
Il faut dire que dans la boîte de Seven Wonders, il y avait une variante pour jouer à deux, qui était frustrante et pas super intéressante en soi.
Alors après chacun l'appréciera comme il voudra. Mais tu parles pour toi, parce qu'il y a des gens qui aiment jouer à cette version-là, donc il faut respecter ça.
Oui, non, bien sûr.
Mais par contre, ce qui a frappé, en fait, l'idée, elle est venu d'Antoine. Antoine a été il a conçu Seven Wonders, et c'est pour ça que ça s'appelle Seven Wonders, parce qu'il voulait une expérience ludique pour 7 joueurs.
D'accord.
Donc c'est son principe de base. Et tout le jeu est dirigé, toute sa conception de base est dirigée vers le multijoueur, et un multijoueur important, parce que il disait dans les soirées, il n'y a pas de jeu qu'on peut jouer à plein, etc. etc. Donc ça, c'était son parti pris de base. Et il a été marqué, d'abord, premièrement, il a été évidemment très très heureux de la réussite extraordinaire de ce jeu, le Spiel Noir, enfin le jeu expert, quoi, bref. Mais par contre, sur les salons, il a été marqué par le nombre de personnes qui venaient le voir en disant « Oh, monsieur Boza, votre jeu, il est génial, on y joue qu'à deux, avec ma compagne, etc. » Et lui, ça l'embêtait, parce que cette expérience à deux joueurs, il la rejette pas, mais elle correspond pas à ce qu'il voulait imprimer comme
c'était pas l'esprit, quoi.
C'était pas l'esprit du tout. Et donc, du coup, ça lui a fait un big bang dans sa tête, et il s'est dit mais ça va pas, parce qu'en fait, c'est pas cette expérience ludique que je veux générer. Donc, il faut que je fasse une version pure pour deux joueurs qui génère l'expérience ludique que je veux, mais vraiment dédiée au jeu à deux. Et il a essayé de son côté pendant un certain temps, je le savais pas, hein, je veux dire, il m'en avait jamais parlé. Et puis, un jour, on part à la Gen Con, et puis il me dit, manifestement, moi, les jeux à deux, c'est pas mon truc. J'ai quelques idées et tout ça. Est-ce que ça te dirait pas qu'on bosse ensemble? Alors, du coup, j'ai dit, attends, je vais réfléchir quand même. Et j'ai dit oui.
C'est plutôt pas mal.
Je pense que j'ai hésité à peine un quart de seconde. Hein. Non, c'est un cadeau, quoi. Je veux dire, c'est en tant qu'auteur, quand t'as un auteur majeur qui te dit, tiens, je vais partager ma licence majeure avec toi, j'appelle ça un cadeau.
C'est un vrai cadeau, effectivement.
D'autant que c'était un vrai cadeau, parce qu'à l'époque, je galérais vraiment financièrement, et il me l'a proposé aussi pour m'aider sur ce plan-là.
Les donc, potes,
oui, je dis chapeau bas, quoi, franchement.
Clairement.
La légende raconte que vous l'aviez quasiment fini le temps du voyage.
Pas fini, mais par contre, le jeu tel qu'il est a été posé dans l'avion, clairement.
Incroyable.
Non, mais
la prolifération. Aïe, là, là, là.
Non, mais c'est pas ça. Mais en fait, c'est très simple. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, à partir du moment où on a commencé à discuter, dit voilà, Seven Wonders, c'est quoi? C'est un jeu de draft. Donc, le draft de base, etc., il ne marche pas à deux joueurs. Difficile, parce que si je prends une carte, je te tends le paquet, machin truc et tout ça, franchement, ça devient chiant tout de suite. Donc, il faut trouver un autre système de draft adapté à deux joueurs. Donc là, tu réfléchis par rapport à ça. Seven Wonders, c'est quoi? C'est le scientifique, le militaire, le commercial, etc. Donc ça, on va le garder. Par contre, qu'est-ce qui peut rester en l'état? Qu'est-ce qui ne peut pas rester en l'état? Le militaire, mon voisin de droite, mon voisin de gauche, deux joueurs, c'est toi. Donc, donc ça ne peut pas rester comme ça. Donc on a deux joueurs, qu'est-ce qu'on va faire du tir à la corde?
Bien sûr.
Donc c'est immédiat, je veux dire, tu vois, c'est...
Oui, et puis il y a l'expérience, le scientifique, en fait, on a des réponses
Le scientifique, moi je dis, écoute, voilà, je veux bien bosser avec toi, tout ça, mais le scientifique, il faut le casser. Parce que moi j'adore Seven Wonders, je suis un fan depuis tout le temps, mais par contre, force est de constater que la façon de compter les points du verre, si tu veux, à part l'expert, personne n'y comprend rien, il faut revenir dans la règle à chaque fois, ou à moins que tu aies fait 40 parties de suite, quoi, si tu veux.
Oui, bien sûr.
Et donc, du coup, là, on fait un jeu à deux, il faut trouver quelque chose de beaucoup plus immédiat que ça, et on va pas recommencer à carrer le carré de l'hypoténuse, de machin truc et ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et on va faire de la collection, et puis du coup, l'idée... des victoires immédiates, l'idée des épées Damoclès, parce qu'on fait un jeu à deux, et si on a trois façons de gagner, et à un moment donné c'est l'histoire du tabouret, c'est tu mets un tabouret avec un seul pied, alors tu peux rester dessus, c'est cool, mais par contre c'est acrobatique, tu mets deux pieds, ça reste tout aussi bancal, c'est difficile de se maintenir, tu commences à mettre trois pieds, ça peut être un peu bancal, mais par contre c'est stable.
C'est agréable.
Et donc après, nous, notre travail, à partir du moment où on a les trois pieds, c'est de les ajuster à la bonne longueur pour que ça soit stable et horizontal.
L'image est absolument fantastique.
Ça, c'est le travail, ça.
D'accord, ok. Christophe, une dernière question ?
Justement, toujours le jeu à deux. Le jeu à deux, c'est toujours un... On est toujours souvent dans le jeu abstrait. Oui. Et tu parlais justement de l'importance des jeux abstraits dans ta production. Enfin, plutôt dans tes références.
Oui, dans mes références. Pour moi, une des références majeures, un jeu que... Voilà, moi, je vais profiter pour saluer un auteur que j'admire, qui est parmi nous d'ailleurs, ici à Cannes, c'est Claude Leroy. Claude Leroy, c'est moi, quand je suis tombé dans JGS, il y a fort longtemps, en 86, je crois, grâce à la revue Jeux et Stratégie, tout ça, j'ai pris une claque. Ce jeu est malheureusement pas suffisamment connu à mon goût. Claude Leroy n'a pas la reconnaissance d'auteur qu'il mérite. Mais voilà, ça fait partie pour moi de références et qui m'ont ouvert l'esprit d'ailleurs sur ma création, puisque dans JGS, il y a cette notion de la contrainte. Ce que j'ai trouvé, comment dire, à la fois innovant et génial, c'est qu'en fait, pour une fois, on n'est pas sur un jeu abstrait avec les blancs contre les noirs. Le stéréotype du jeu abstrait, les blancs contre les noirs. Non, là, il n'y a que des noirs, à la base. Sauf que tu peux jouer que ceux qui sont le plus près de ton camp. Sachant que l'objectif est de réussir à envoyer quelque chose dans le camp adverse. Et ça, cette contrainte de, il y a tout un matériel qui nous appartient à tous les deux, mais moi, en fonction de l'état du moment, je ne peux jouer que celui-là, etc. Ça a drôlement influencé mon game design. On va le retrouver, la contrainte, on va la retrouver, par exemple, dans Drôle de Zèbre, qui aujourd'hui devient Kiwara, où tu ne peux jouer que dans la colonne et tu vas forcer l'autre à jouer dans telle ou telle colonne, etc., etc. Et j'ai réutilisé ce concept de base de façon très différente à chaque fois, mais ça m'a ouvert les yeux, quoi, vraiment.
Pour ceux qui sont intéressés par son travail, il met à disposition sur un site une grosse partie de ses créations et avec de nouveau des travaux d'édition plutôt artistiques. Oh. Et puis il a une actualité où il a un jeu qui a été rebaptisé
Kang. Ouais. Ouais. Kang, c'est sa réédition de JGS, effectivement.
Ok, est-ce que on peut faire un tour rapidement des prochaines nouveautés, alors pas forcément proto, mais des trucs qui vont sortir là tout de suite sur les étals dans les 2, 3, 4 prochains mois avant SN.
C'est ça, donc on a Imaginarium chez Bombix, qui est présenté ici, mais qui va arriver dans les boutiques d'ici un mois, je pense. Mm-hmm. Il y a une deuxième extension pour Abyss qui s'appelle Léviathan.
Oui, enfin.
Voilà, enfin, ouais, exactement. Qui remet en cause la gestion des monstres, quelque chose d'épique,
qu'on avait testé l'année dernière.
Il y a Micropolis chez Matago, qui est un petit jeu qui me semble, enfin, les joueurs verront, c'est les joueurs qui décident, mais enfin pour moi c'est un jeu sans parler de prix ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ma quête de toute façon, mais qui a le même potentiel d'accessibilité qu'un King Domino pour moi.
Ah oui, clairement. Oui.
Ouais. Il y a Jurassic Snack, donc chez Flying Meeple, qui est un jeune éditeur qui a décidé de faire du jeu à deux et qui m'a offert là une réalisation qui est quand même assez exceptionnelle. Hier, j'ai fait des parties en simulation, en simultané, contre 5 personnes. C'était super fun. Ouais, on s'est bien amusé.
En mode joueur d'échecs.
Il y a Kiwara qui sort chez Oz Edition, qui est la réédition là aussi améliorée de Drôle de Zèbre. Et puis il y a L'Âge des Géants, qui est une extension pour King Domino, mais là pour qui Queen Domino c'est trop, c'est-à-dire que Queen Domino c'est vraiment dédié aux joueurs, King Domino famille, et là c'est une extension dédiée au mode familial. Voilà, puis après il va y avoir d'autres choses, Scarabia à la fin de l'année, un jeu qui va s'appeler, je sais plus comment, mais dans l'univers de Fold It, le jeu où on plie des serviettes pour faire.
Oui, c'était vachement sympa. Ça.
Et donc, j'ai fait une course de tapis volant. Parce que ce que je voulais, c'est
on peut remettre cette phrase hors contexte qui est vraiment fantastique. On plie des serviettes, on a fait des courses de tapis volant.
Bah oui, parce que si tu veux, il y a un auteur coréen qui a eu l'idée. Alors, l'histoire, elle est quand même hallucinante. Parce que le gars, il a l'idée de Fold It. Est-ce que vous savez pourquoi?
Non.
C'est un jeune. Il est parti au service militaire. Et pendant un an, il a dû plier des serpillères.
Oh là. Et là, il s'est dit, je vais en
faire. Et là, sur les serpillères, il y avait des motifs. Et comme à l'armée, c'est rigide, il faut les plier de certaines façons. Les motifs, ça faisait des trucs, etc. Et donc, il s'est dit, mais il y a un jeu à faire avec ça.
C'est
son premier
c'est
jeu.
Incroyable.
Non, mais c'est, voilà. Et il s'avère que moi, je vais en Corée il y a 2 ans, 1 an et demi, invité pour justement faire une conférence sur le game design. Et puis, donc là, j'ai l'éditeur de Fold It, l'éditrice de Fold It, qui me dit, est-ce que tu nous fais le prochain? Ben, je dis ben ouais,
forcément. Hein.
Là, je rentre dans l'avion, je me dis merde, qu'est-ce que je fais? Et là, pour moi, il fallait qu'il y ait une cohérence au pourquoi de plier du tissu. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est mon tapis volant. Et la façon dont je vais le plier va déclencher une formule qui va me faire avancer plus ou moins loin. Et voilà, c'est parti.
Ok, d'accord. C'est cool. Je trouve ça trop cool. Ok, merci Bruno Catala pour ce temps, cette joie, cette passion surtout partagée avec nous.
Ne me dis pas merci pour ce moment, s'il te plaît.
Pourquoi? Ah oui, non, oui. Trop sous-entendu sur cette phrase, on finira sur ça. Merci encore. On espère te revoir bientôt et puis on a hâte de tester encore tous les jeux qui vont arriver. Merci encore une fois.
Merci à vous.
Salut, c'est Eric. L'univers des comics vous intéresse mais vous n'osez pas vous y plonger? Vous êtes perdu dans la multitude de titres et d'adaptations au ciné? Vous confondez toujours Batman et Robin?
Ah mais ouais, mais là c'est chaud là quand même, c'est chaud!
Dans Comics Outcast, avec une équipe de chroniqueurs de tous horizons, On décortique pour vous les titres sortis récemment, on revient sur des grands classiques du genre, on vous présente les auteurs et les illustrateurs qui font du bruit, on va même jusqu'à regarder les films, les séries télé et les dessins animés dans la bonne humeur et avec beaucoup de mauvaise foi. Pas de prosélytisme, Marvel, DC, Image Comics, mais aussi Dark Horse, IDW et les maisons indées, tout y passe. Il y aura forcément quelque chose pour vous. Comics Outcast, c'est toutes les deux semaines sur Radio Kawa.
Connaissez-vous Ludographie Comparée ? À chaque numéro, Mathieu Gou,
c'est moi,
dissèque un élément d'un jeu vidéo,
un signe vidéoludique,
et vous donne les raisons de l'existence de ce signe. La cigarette dans Metal Gear Solid,
le score dans le premier Megaman,
le choix dans The Stanley Parable,
la difficulté à rebours dans Braid.
Autant de raisons d'écouter Ludographie Comparée sur Radio Kawa.